Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série qui concerne, comme nous l'avons dit, le victorieux, le vainqueur, le vainqueur. Et notre titre pour aujourd'hui sera le discernement. Il se pourrait que ce soit très significatif qu'il y ait pu être écrit de Lucien, l'écrivain satirique romain, qu'à ses yeux, les chrétiens sont des personnes ignorantes, crédules, susceptibles d'être trompées par n'importe quel charlatan intelligent. Par la même occurrence, le monde chrétien de notre époque ne peut pas être grandement recommandé pour son discernement. Et le Nouveau Testament a des choses à dire à ce sujet qui doivent être soulignées. Dans le premier cas, ce serait aussi bien de se tourner vers le passage bien connu de 1 Corinthiens chapitre 2. Les déclarations de l'apôtre Paul dans ce passage sont sans équivoque. Il suit un thème favori également développé dans ses autres épîtres que l'Évangile est la sagesse cachée de toute éternité qui est désormais impartie à l'Église chrétienne. Au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 2, il résume son enseignement sur ce point. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il est dit des merveilles de l'amour et de la bonté de Dieu qu'elles sont folie pour l'homme de l'âme, et on peut aussi dire donc de la chair, parce que l'âme, c'est le gouvernement de la chair, contrairement à l'esprit, qui devrait être le gouvernement de notre intelligence et de l'ensemble de notre corps. Nous ne pouvons jamais atteindre le but de la connaissance de Dieu le long des grandes routes intellectuelles. De telles voies ne franchissent jamais le voile qu'il cache à la vision de l'homme déchu. Et voilà un domaine d'expérience et de vie qui ne peut pas être exploré d'en dessous, comme il doit se défendre, l'intellect humain ne peut jamais saisir sans aide les réalités de l'invisible. Elles ne sont discernées qu'au moyen d'un don défini, conféré par l'Esprit Saint de Dieu, accordé comme étant l'issue directe de la mort expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au calvaire et son retour consécutif au trône même de Dieu. Car il fut livré pour nos offenses, est-il dit, et il est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Il n'existe aucune justification, quelle qu'elle soit, pour considérer la compréhension de la grâce de Dieu comme étant uniquement accordée à certains chrétiens avancés. C'est l'héritage de chaque chrétien véritable et c'est l'un des signes infaillibles par lequel l'authentique expérience chrétienne peut être mesurée et testée. Les versets qui suivent sont tellement rendus clairs par la version de Philips et la version de Albrecht que nous ne pouvons pas faire mieux que de les laisser parler d'eux-mêmes. Là, il est dit, ce sont ces choses dont nous parlons, non pas en utilisant les expressions de l'intellect humain, mais ceux que le Saint-Esprit nous enseigne, expliquant les choses spirituelles, à ceux qui sont spirituels. Mais l'homme qui n'est pas spirituel ne peut tout simplement pas accepter les questions que traite l'Esprit Saint. Elles n'ont tout simplement aucun sens pour lui, car, après tout, vous devez être spirituel pour voir des choses spirituelles, c'est clair. Et d'un autre côté, l'homme spirituel a un aperçu dans la signification de tout, bien que cet aperçu puisse déconcerter l'homme du monde. Et c'est parce que le premier partage la sagesse de Dieu et a connu la pensée du Seigneur afin qu'il l'instruise. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous qui sommes spirituels, nous avons les pensées mêmes de Christ. Voyez-vous, ceux qui manquent de discernement commettent deux erreurs. Ils oublient le fait de la nature déchue de l'homme et qu'il nous est donc presque impossible de découvrir la vérité divine sauf par le moyen du pont qu'il a lui-même construit au-dessus de l'abîme qui existe entre nous. Le corollaire naturel de ces erreurs est qu'ils s'ouvrent aussi au danger d'être égarés par des théories et des idées nées de l'intelligence native de l'homme, au lieu de se confier dans l'enseignement de Dieu, le Saint-Esprit. Ceci est une espèce de rébellion contre Dieu. L'orgueil est l'enfant de l'intellectualisme dans son approche de l'Écriture sainte, tandis que l'humilité est vraiment le résultat du discernement donné par l'Esprit Saint. Et pour cette raison, l'apôtre Paul nous dit, lorsque vous rencontrez de l'amertume et des disputes menant à la division, vous pouvez prendre pour acquis que vous avez affaire à des hommes sans instruction et sans discernement. J'ai écrit Saint Paul et Apollos comme une illustration. Ceci afin que vous puissiez apprendre à partir de ce que j'ai dit à un autre sujet, non pas à estimer l'homme au-dessus de sa valeur aux yeux de Dieu, et que vous puissiez ainsi éviter le désaccord qui provient de l'exaltation d'un enseignement par rapport à un autre. Car qui vous rend différent? Ceci serait mieux traduit par « discerner ». Différemment, et ceci par rapport à l'autre, de quelqu'un d'autre, et qu'avec vous, qui ne vous fut pas donné. Et si tout vous a été donné, pourquoi vous vantez comme si c'était quelque chose que vous aviez accompli vous-même? 1 Corinthiens 14. Chapitre 4, versets 6 et 7, selon toujours la version Albrecht et Philips, elle est claire. Aussi, une autre route pour l'usage du discernement est signalée dans Matthieu chapitre 16, verset 3. Les pharisiens et les sadducéens avaient pour une fois uni leurs forces pour chercher à éviter la suprématie menacée du prophète galiléen et de ses enseignements révolutionnaires. Le Seigneur Jésus-Christ les reprend sur leur efficacité en tant que prophète du temps, mais de leur totale incapacité à discerner la tournure de l'époque dans laquelle ils vivent. Le soir, vous dites ceci. Oh, il fera beau, car voyez-vous, le ciel est rouge, et le matin, il y aura forcément de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre, forcément qu'il y aura de l'orage. Et le maître répond, hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, c'est vrai, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et Matthew Henry, le fameux commentateur biblique, dit dans son propre style original, il y a des signes des temps par lesquels des hommes sages et droits peuvent faire des pronostics moraux et pour autant comprendre les mouvements et les méthodes de la Providence et ainsi, par conséquent, prendre leurs mesures et savoir ce qu'Israël devrait faire comme les hommes d'Issachar, comme le physicien, à partir de certains symptômes, trouve la formation d'une crise. Il y a des personnes qui sont assez habiles dans d'autres choses, il est vrai, et pourtant elles ne peuvent pas ou ne pourront pas discerner le jour où une occasion leur est offerte et elles ne sont donc pas conscientes du vent lorsque il leur est propice et elles laissent donc entrer le coup de vent. Notez Jérémie chapitre 8 verset 7 ainsi que Ésaïe chapitre 1 verset 3. C'est un grand don de pouvoir discerner les besoins de l'époque dans laquelle nous vivons actuellement et d'agir en fonction de ce qui nous est montré. C'est un grand art d'œuvre chrétienne d'être prompt à discerner la mouvance de l'Esprit de Dieu et d'être prêt à s'adapter à ses agissements. De nombreuses personnes parmi nous sont tellement occupées par leur travail pour Dieu que nous n'avons plus le temps pour voir ce que Dieu nous demande vraiment. Je suppose que la capacité à discerner les plans de Dieu et à y entrer, montrer la véritable grandeur de ces hommes et de ces femmes qui ont été particulièrement utilisés par Dieu au fil des siècles. Croyez-moi, Saint Paul a lu correctement les nuages orageux qui s'accumulaient sur l'église d'Éphèse et il en avertit les anciens au préalable. George Whitefield a vu que Dieu avait un plan pour sa propre époque pour atteindre les foules avec l'Évangile. Et pour s'exprimer ainsi, il mit les voiles pour capturer le souffle de l'Esprit-Saint. Hudson Taylor était si alerte au désir ardent divin qu'il sut quand l'heure de Dieu avait sonné pour avancer au cœur de la Chine. William Booth entendit l'appel pour porter l'évangile aux indigents juste au moment où Dieu travaillait dans ce sens. Or, j'ai pris quelques noms au hasard, et la liste peut être multipliée presque indéfiniment. Vous et moi, discernons-nous les besoins de l'époque dans laquelle nous vivons? C'est comme si les ombres s'allongeaient. Nous vivons, il est vrai, à une époque dans l'histoire du monde où l'homme rejette les contraintes de la piété et où son orgueil augmente au pas avec les progrès rapides qu'il fait dans la réussite scientifique. Mais nous vivons encore dans le temps de la grâce pour l'instant, la grâce de Dieu, et Christ doit être prêché encore plus que jamais. Combien, demande le révérend Packer dans un article récent sur le point de vue puritain de la prédication de l'Évangile. Lorsqu'ils prêchent l'Évangile, ils sont consumés carrément par le désir de magnifier Jésus-Christ pour prôner la richesse, la liberté et la gloire de sa grâce, ainsi que la perfection de son œuvre salvatrice. La manière superficielle et facile avec laquelle la personne du Sauveur est parfois traitée actuellement dans la prédication moderne actuelle, nous impose quelques questions. La prédication de l'Évangile puritaine s'inquiétait, croyez-moi, avant toute autre chose, d'honorer Christ, de montrer sa gloire aux hommes et aux femmes indigents. Il est plus qu'à souhaiter que nous, qui prêchons l'Évangile à cette époque, puissions redécouvrir le même souci qui maîtrise tout, d'exalter carrément ce puissant et merveilleux Sauveur. Oui, vraiment. Aussi, pour utiliser une histoire de l'Ancien Testament simplement et purement comme illustration, je sens parfois que les tactiques des puissances des ténèbres sont fortes, et n'oublions jamais que notre combat est en fait contre les princes de ce monde de ténèbres et peuvent être résumés dans les ordres du roi de Syrie relatés dans 1 roi, chapitre 22, verset 31. Voyez-vous, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, « Vous n'attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Depuis les tout premiers jours de l'histoire de l'Église chrétienne, la stratégie de l'enfer semble s'être concentrée sur la personne uniquement, comme jamais sur la personne de Jésus-Christ. À tout prix, les faits véritables concernant Jésus-Christ doivent être cachés. Sa gloire doit être souillée. Tous les plans de Dieu dans la grâce et pour le bien-être des hommes ne sont acquis qu'en Christ, qui, lui, et le Dieu parfait et homme parfait, et qui vit et qui règne absolument pour l'éternité. N'est-il donc pas alors raisonnable d'affirmer que dans ces derniers jours que nous sommes actuellement, de l'exaltation de l'homme, que l'attaque satanique sur le Sauveur sera intensifiée, lisez l'Apocalypse, et que l'Église de Christ doit concentrer tous ses pouvoirs pour l'exalter tant qu'il est encore possible. Et c'est toujours notre tâche primordiale, et ceci plus que jamais dans une époque comme celle-ci. Puisse donc Dieu permettre, chers amis, que vous et moi ne manquions pas de discerner les signes des temps. Tout ceci nous amène directement à un autre aspect de notre sujet. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, là, on nous donne parmi les dons de l'Esprit Saint à l'Église le discernement des esprits. Et dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 1 à 3, on nous montre le don mis en pratique. Le mauvais esprit manifesté dans l'enseignement de l'Antéchrist se voit dans le rejet et dans la dénégation du Christ de Dieu. L'évêque Hélicote, il commande ceci. C'est-à-dire, il commente ceci, excusez-moi. Il est très important de noter que cet examen de la vérité et de l'erreur est inculqué à tous de la même manière, et non seulement à une classe ordonnée et séparée matériellement. C'est donc la responsabilité de chacun de nous de chercher à ce que nous soyons revêtus d'un esprit de discernement. Notons également la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 22, qui est peut-être encore plus spécifique et directe. La dénégation que Jésus-Christ est le Christ et que Jésus-Christ est venu dans la chair et la dénégation de sa divinité ou de son humanité parfaite n'est pas quelque chose qui doit être traité à la légère, mais pas du tout. L'audace chrétienne refuse d'avoir affaire à quoi que ce soit avec un tel enseignement qui est positivement mauvais et porte l'empreinte de l'Antéchrist. La traduction compétente de Albrecht et Phillips, Phillips c'est donc une version anglaise, Albrecht c'est donc la version allemande. Donc, ces versets-là, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 1 à 3, expriment très clairement et simplement toute cette pensée où il est dit « N'ajoute n'ajoutez pas foi à tout esprit, mes chers amis, mais éprouvez-les pour découvrir s'ils viennent ou non de Dieu. Car le monde est rempli de faux prophètes. Vous pouvez les éprouver de cette manière très simple, car tout esprit qui reconnaît le fait que Jésus le Christ de Dieu est vraiment devenu homme, vient de Dieu. Mais l'esprit qui nie ce fait ne vient pas de Dieu, absolument pas. Ce dernier vient forcément de l'Antéchrist. On vous a averti qu'il viendrait, et comment? Et il est déjà dans le monde. C'est, croyez-moi, notre devoir impérieux d'être ici très critique si nous voulons éviter les pièges de Satan. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être sentimentaux. Moi, j'ai toujours été un grand sentimental, mais je ne prétends pas que cela est forcément biblique. Deux attitudes sont mises devant nous, et nous ne devons pas oublier que ceci est un cas où le silence peut être aussi coupable et dangereux qu'une dénégation habile. J'ai entendu des sermons excellents dans lesquels on ne pouvait trouver aucune faute, à part ce seul et unique manque fondamental que Christ n'était pas prêché du tout. Il se peut qu'il était pris pour acquis, pourquoi pas, mais il n'était certainement pas le centre et l'ensemble du thème du prédicateur. Il est possible de faire le travail de l'Antéchrist sous les atouts d'une phraséologie chrétienne habile et de nier le Sauveur par omission. Combien nous avons besoin, chers amis, ici, de discernement. Le discernement d'un grand amour qui est jaloux de sa gloire, de la gloire de Dieu, et prudent de crainte que l'unique moyen d'acceptation avec Dieu est le plaisir de sa divine présence et soit donc refusé aux hommes qui sont dans le besoin. Voyez-vous, chers amis, le discernement est même absolument nécessaire à la table du Seigneur, que vous le croyez ou pas. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère que de partager la communion, la sainte communion, et un examen de conscience soigneux devrait toujours, absolument toujours, précéder notre présence à cette sainte table. Et ceci afin que nous ne dérivions pas dans une approche suffisante qui prend la merveille de son divin amour simplement pour acquise. Car voyez-vous, celui qui mange et boit indignement, ce qu'il ne faudra jamais faire, mange et boit une damnation. Ça, c'est sérieux. Donc, il boit et mange un jugement contre lui-même en ne discernant pas le corps du Seigneur. Notez et lisez soigneusement une fois pour toutes 1 Corinthiens chapitre 11 verset 29. Le terrain de la condamnation encouru et à propos des éléments du repas du Seigneur et de la manière de les traiter comme s'il n'y avait rien pour les distinguer du pain et du vin ordinaire. Le danger, c'est de traiter l'amour de Dieu tout simplement à la légère. C'est un danger auquel nous sommes peut-être particulièrement exposés à cette époque où il n'y a plus de valeur du tout. Je me demande un peu combien de faiblesses et de maladies qu'il peut y avoir dans l'Église chrétienne à cause de quoi? À cause de manque de discernement dans ce domaine-là. Quel mystère réside caché derrière les éléments du pain et du vin. Avec quelle humilité et quel respect nous devrions marcher lorsque nous venons partager ces symboles de l'amour de Christ qui surpassent la connaissance. J'ai souvent tremblé d'entendre des cantiques et des chœurs chantés qui parle des profondeurs étonnantes de son amour agonisant, comme s'ils étaient des chansonnettes populaires. Par contre, écoutons un peu les lignes très connues, mais magnifiques, de Charles Wesley. Il dit ceci. Et se peut-il que je puisse obtenir un intérêt dans le sang du Sauveur? Il est mort pour moi, qu'il a fait tellement souffrir. Il est mort pour moi, lui, que la mort a poursuivi. Amour étonnant, comment se peut-il que vous, mon Dieu, soyez mort pour moi. N'est-ce pas merveilleux? Votre être tout entier ne vibre-t-il pas d'une reconnaissance extrême? Si ce n'est pas le cas, n'avez-vous pas besoin de pouvoir discerner avec plus de clarté que le plus saint de tout et la demeure de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, et que c'est là le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, révélé dans la merveilleuse simplicité de la table du pain et du vin. Et que penser, par exemple, des disputes dans l'Église? Vous pensez que ça n'existe pas? Alors là, vous vous trompez tout simplement. Le mot grec que nous avons jusqu'à maintenant traduit en français par discerner apparaît dans d'autres passages intéressants et traduit un peu différemment. Il est utilisé, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5. Nous notons à nouveau la version anglaise Philips et la version allemande Albrecht, qui traduit les versets 5 et 6, versets 5 et 6 de 1 Corinthiens 6 comme suit. Êtes-vous vraiment incapable de trouver parmi votre nombre un homme, une femme, avec suffisamment de sens pour trancher une dispute entre l'un et l'autre d'entre vous? Ou un frère doit-il avoir recours à la loi contre l'autre? Et cela devant ceux qui n'ont aucune foi en Jésus-Christ. Voyez-vous le cadre de ces versets et la réflexion que l'apôtre nous donne à propos des disputes entre des chrétiens. Il considère que l'Église, elle est comme étant une communauté spéciale et à part, et là il a raison, et il recommande avec insistance que c'est contre la dignité d'une telle communauté d'avoir des différences entre ses membres attirés devant les cours séculiers, et ceci pour rencontrer le regard absolument méprisant, ça vous pouvez me croire, et tout cela, le regard méprisant des incroyants. J'ai oublié de vous le dire. Il supplie donc que des hommes dans l'Église, avec un discernement si possible, avec une sagesse et une grâce suffisante, puissent régler ces différends de manière satisfaisante. Les disputes entre des chrétiens sont des choses étrange et même honteuse. Nous savons tous qu'elles ont lieu, bien sûr, et notre réaction naturelle est de les laisser bien seules. Et pourtant, devons-nous les laisser couver? Devons-nous les laisser donner une occasion aux critiques toujours prêtes de l'Évangile? Ou ne devrions-nous pas, de par notre loyauté envers Dieu et de notre amour pour les frères et sœurs, chercher à discerner les droits et les torts de chaque cas, demander que la sagesse et la grâce les règlent, faire la paix et assurer l'harmonie? Le verdict de l'Écriture sainte semblerait être assez clair. Oui, chers amis, le discernement est l'un des signes de la maturité. Et la maturité, c'est tout simplement l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie vécue, dans une coopération humble avec le Seigneur. Hébreux, chapitre 5, verset 14, se lit à peu près comme suit. Mais la nourriture solide est faite pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les références en marge de ma Bible, et je soupçonne plutôt, que peu de personnes parmi nous utilisent ces références marginales pour le meilleur avantage. Mais signalons quand même deux passages de l'Ancien Testament qui illustrent la pensée qui se cache derrière cet aspect du discernement. Nous avons 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Là, on nous dit que Salomon demanda « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » Oui, un roi nouveau dans sa fonction et faisant face aux nombreux problèmes du bien et du mal que la vie et le gouvernement lui apporteront, cherche un cœur qui comprennent. Ensuite, nous avons Ésaïe, chapitre 7, versets 15 et 16. Là, il contient la phrase qui décrit un garçon perdant l'habitude de la dépendance extrême de l'enfance, afin qu'il sache refuser le mal et choisir le bien. Ne faites ici aucune erreur, car vous et moi ne perdrons jamais l'habitude de notre nécessité d'une dépendance totale envers Dieu, et nous devrions être profondément reconnaissants qu'il en soit ainsi. Mais, la maturité chrétienne se développe par un exercice permanent des sens en discernant tout simplement le bien du mal, le droit des torts, la vérité de l'erreur, et finalement, choisissons le bien. Le fameux commentateur Matthew Henry observe ici avec beaucoup de vérité, l'âme a ses sensations aussi bien que le corps. Celles-ci sont très perverties et perdues par le péché, mais elles sont regagnées par la grâce de Dieu. C'est par l'usage et l'exercice que ces sens sont améliorés, qu'ils sont rendus plus prompts et forts pour goûter à la douceur de ce qui est bon et pur et à l'amertume de ce qui est faux et mauvais. Non seulement la raison et la foi, mais le sens spirituel enseigneront aux hommes à faire la distinction entre ce qui plaît à Dieu et ce qui le provoque, entre ce qui est utile et ce qui est blessant pour nos propres âmes. Voyez-vous, pour que l'esprit d'un homme soit exercé, il faut un usage fréquent et une connaissance de l'Écriture sainte. Et sans cela, en observant notre pensée dans les Écritures saintes et en observant le conseil du Seigneur qui s'y trouve, un homme ne peut pas discerner, en tout cas pas toujours, la fausse doctrine de la véritable, bien qu'il soit versé dans les écrits humains. Et cette question du cœur et de la vie par les Écritures saintes est l'unique moyen d'apprendre à marcher dans une voie qui plaît vraiment à Dieu. Et nous avons donc une allusion, je crois, dans Hébreux chapitre 4, de la manière dans laquelle cette discipline agit. C'est au verset 12. On a dit de Hébreux 4, là il est dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » Attention, âme concernant la chair, le corps, et l'esprit qui devrait concerner vraiment le sens intérieur de Dieu, aussi le contrôle sur nos pensées et tout cela dans le côté spirituel. Et ensuite, il est dit les jointures et la moelle. Elle juge donc les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. Et voyez-vous, notre ennemi principal n'est ni le monde ni le diable, mais je crois que c'est notre propre moi. Pourquoi pas? Tandis que nous lisons et étudions les Saintes Écritures et prions humblement pour nous-mêmes, nous découvrons qu'une lumière est répandue sur nos vrais besoins et nos véritables dangers. À la lumière de ce discernement donné par Dieu, nous sommes alors capables de nous reposer sur l'action du Saint-Esprit et d'agir avec lui en conformant nos vies à l'image du Sauveur. Oui, le discernement est carrément, vraiment nécessaire dans chaque partie de la vie chrétienne. C'est un trésor de grand prix. Demandez-le au Seigneur, qui doit être recherché avec une ardeur qui ne sera pas niée. Puissions-nous, chers amis, vous et moi, devenir des hommes mûrs en Christ, sages, est capable de soulever les fardeaux qui pèsent lourdement et comment sur d'autres cœurs. Ainsi, la vie deviendra pour nous une chose joyeuse et le grand nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera magnifié. Alléluia! Voyez-vous, chers amis, lorsque Salomon monta sur son trône, voilà ce qu'il rechercha. Il rechercha un cœur sage et compréhensif. Et dans les 9 premiers chapitres des Proverbes, il donne son témoignage personnel de cette expérience gracieuse et bénie. Pour diriger et guider son peuple, pour compatir et pour aimer, pour aider les plus faibles, Il avait besoin du Saint-Esprit, dont le nom est l'Esprit de vérité. Que ce soit deux pauvres prostituées, rappelez-vous, qui viennent à sa cour, ou que ce soit la reine de Saba, cela n'avait pas d'importance. Il découvrit que le Saint-Esprit lui avait donné un cœur pour apaiser et compatir et déverser toute sa réserve de sagesse pour tous. Premièrement, c'est une sagesse de certitude, car le Saint-Esprit scelle sur notre conscience les choses gracieuses que nous lisons et que nous croyons. Nous parlons de ce que nous connaissons. Christ n'est pas seulement prêché comme étant la sagesse de Dieu, mais comme étant expérimenté en tant que tel. Ce n'est pas la connaissance froide, dure et non convaincante, bien que vraie, mais c'est la connaissance de l'intuition. Oui, la connaissance de l'assurance, le sceau de l'Esprit-Saint. Et c'est là la sagesse que ceux qui nous écoutent ne peuvent pas contredire. Une sagesse qui nous fait connaître Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Savoir que nous sommes passés de la mort à la vie, connaître la crainte du Seigneur afin de convaincre les hommes. Savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Savoir en qui nous avons cru et être persuadé qu'il peut garder ce que nous lui avons confié jusqu'à ce jour. Deuxièmement, c'est la sagesse du discernement. Nous sommes équipés pour connaître le cœur des hommes comme jamais auparavant. Et c'est une sagesse qui est justifiée pour ses enfants qui sait quand jouer de la flûte et quand danser et quand il faut aussi pleurer. Ce fut la sagesse qui a fait que Salomon demanda l'épée. Oui, l'épée, afin qu'il puisse discerner les attentes de l'amour. Troisièmement, c'est la sagesse de l'inspiration qui sait comment utiliser la parole de Dieu. Tout comme Étienne, notre langage sera celui du livre de Dieu. J'ai entendu à la fois dans la prière, dans la prédication et dans une opération personnelle les paroles de l'Écriture jaillissant du cœur comme un puits artésien montant instinctivement aux lèvres. Les paroles divinement inspirées, elles semblent particulièrement appropriées et elles semblent vraiment puissantes, voyez-vous, lorsque elles sont prononcées tout simplement par une personne qui est rempli du Saint-Esprit. J'ai du reste été très étonné de voir comment rapidement le Saint-Esprit, après être venu vers son temple, fait que la parole de Dieu demeure dans le cœur richement en toute sagesse, voir l'ouvrier indigène ainsi enrichi et rendu puissant pour convaincre et convertir, est l'une de nos joies les plus grandes. Le cœur, la pensée et les lèvres semblent presque soudain meublés par les paroles de Dieu, et en cela se trouve vraiment la sagesse du gagneur d'âme. Donc la prière et la louange sont très efficaces dans l'harmonie et la puissance lorsqu'elles sont exprimées dans la langue que Dieu le Saint-Esprit nous a donnée. Et finalement, c'est la sagesse du témoignage. De tous côtés, les disciples partirent pour être quoi? Pour être les témoins de Christ. C'est là ce que des hommes et des femmes veulent voir et entendre. L'homme et la femme remplis du Saint-Esprit sera toujours prêt à témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui et pour elle et de ce qu'il est pour lui, comme la Samaritaine. Les 12 étudiants théologiques se rendirent ce jour-là à Sichar et ne ramenèrent rien d'autre si ce n'est une boîte de sandwich pour leur maître. Or, voyez-vous, la pauvre concubine qui avait été sauvée, elle repartit avec la sagesse du témoignage dans sa vie et elle a ramené toute une ville pleine de gens à ses pieds. Ça donne à réfléchir. C'était assurément là la sagesse avec laquelle parler afin que personne ne puisse résister. Je sais une chose. Connaissance bénie égale sagesse bénie. Que bien que j'étais aveugle, maintenant je vois. Les feuilles du témoignage, ni desséchées, ni flétries, ni jaunes, mais brillantes, craquantes et vertes, seront pour la guérison des nations. Chers amis, j'aimerais, si c'est possible, c'est pas toujours possible, j'aimerais vous donner, avant de prier ensemble, quelques anecdotes qui devraient nous donner à réfléchir. Les Orientaux ont une coutume qui illustre admirablement comment Jésus a effacé nos péchés par sa mort sur la croix. Quand une dette a été payée ou remise pour bien montrer que l'affaire est réglée, le créancier barre d'un seul trait la reconnaissance de dette et la cloue au-dessus de la porte du débiteur. Tous les passants sont ainsi mis au courant du règlement de la dette. Quelle image pertinente de la grâce infinie qui nous a été faite. Imaginons la croix et derrière elle toute l'humanité perdue, criblée de dettes envers Dieu. Et croyez-moi, j'ai une très lourde dette envers le Seigneur. Je le reconnais humblement. Or soudain, Jésus-Christ, notre répondant, il approche. Il tient dans la main la longue liste de toutes nos fautes et la lève très haut pour que Dieu, les anges, les hommes et aussi les puissances des ténèbres puissent la voir. Et puis, il se produit une chose inouïe. Au moment où le clou transperce la main du Fils de Dieu, il traverse aussi l'acte où figuraient nos dettes, les miennes, et le clou à la croix, selon qu'il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14. Vous ne pouvez pas effacer vos fautes avec vos larmes, ni les expier par vos bonnes œuvres. Il vous faut regarder à Jésus-Christ sur la croix et écouter ce que Dieu vous dit. Il a dit, c'est moi seul qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés. Ésaïe 43, verset 25. chers amis, il n'y a que deux chemins. Il y a le chemin spacieux et le chemin resserré. L'un descend et l'autre monte. L'un mène à la perdition, l'autre à la vie. L'un est très fréquenté, l'autre est très peu fréquenté. Quel chemin prenez-vous? Il n'y a que deux catégories de personnes, les pécheurs sauvés et les pécheurs perdus, le blé et la balle, les brebis et les boucs, les vivants et les morts. À laquelle de ces deux catégories appartenez-vous? Il n'y a que deux façons de mourir, celle du juste et celle de l'impie, celle des rachetés et celle des damnés. Comment allez-vous mourir? Il n'y a que deux perspectives d'avenir. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et entrez dans la vie éternelle. Aux autres, Jésus-Christ dit ceci. Écoutez bien ce qu'il dit. Retirez-vous de moi, maudits, et allez au châtiment éternel. Chers amis, quel sera votre sort? Aujourd'hui, vous pouvez encore choisir. Demain, hélas, ce sera peut-être trop tard. Vous vous dites peut-être, j'ai saisi le message de l'Évangile et j'y crois de tout mon cœur. Et pourtant, je ne suis pas aussi heureux que j'espérais l'être. Mon ami, vous attachez trop d'importance à vos sentiments, car dans la Bible, on ne lit nulle part que celui qui croit et qui est heureux a la vie éternelle. Mais il est dit uniquement ceci, celui qui croit, il a la vie éternelle. Qu'il se sente heureux ou non, cela ne doit pas entrer en ligne de compte, même s'il est en chaise roulante, donc infirme. Imaginez que vous soyez endetté jusqu'au cou. Vous n'avez pas de quoi payer et vous êtes, de ce fait, constamment en souci. Et voilà qu'un beau jour, je viens vers vous et je vous dis, cela me fait beaucoup de peine de vous voir si triste. Laissez-moi vous remonter le moral par un beau cantique. Ne me répondriez-vous pas, mais, cher ami, ce n'est pas cela qui m'aidera et qui empêchera que l'on me mette en prison. Ce qu'il vous faut, c'est savoir que vos dettes sont payées. Alors vous n'aurez plus à craindre d'être appelé en justice, et cela vous rendra sans doute heureux, je le pense. Juste à dire que Jésus-Christ, il a vraiment payé votre dette, et même la mienne. Et il s'est porté caution, même pour les fautes les plus graves que nous avons pu commettre. Et il a éteint toutes nos obligations. Par son œuvre sur la croix, il a pleinement satisfait aux exigences de la justice de Dieu. Mais cela devrait remplir notre cœur de joie. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions maintenant ensemble. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, à toi soit gloire et adoration à jamais. Les anges te louent et se prosternent devant ta face. L'armée des cieux entoure ton trône éternel et du sein de sa misère, et de son abaissement, l'homme chétif, créature d'ici-bas, faible vermisseau qui s'agite quelques jours sur cette terre, l'homme aussi peut et doit te louer et se prosterner devant toi. D'où lui vient ce privilège qu'il assimile aux intelligences célestes? C'est que dans un corps périssable et mortel, dans une enveloppe d'argile, tu as daigné, ô Dieu, placer une âme, un esprit impérissable, immortel, animé d'une étincelle de ta vie, doué d'une parcelle de ton intelligence. Cet esprit et cette âme, que celui qui la possède ne peut ni définir, ni comprendre, a été créé pour l'éternité, pour s'unir à toi ici-bas par son amour et par son obéissance, et dans le ciel par sa reconnaissance et son amour encore. Mais ce but glorieux de notre destinée, le remplissons-nous vraiment maintenant. Et sommes-nous assurés de pouvoir l'atteindre dans les cieux? Quel est donc l'obstacle qui nous sépare de toi, ô Seigneur, qui se place sans cesse entre toi et nos âmes, qui nous attache tout entier aux objets du monde et nous faisons oublier celui qui est le Créateur? C'est le péché, c'est l'amour de nous-mêmes, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est cette déplorable légèreté, cette imprévoyance qui voile à nos yeux nos devoirs, notre inévitable avenir, la mort même et le jugement. Ô Dieu de miséricorde, dans ta bonté infinie, tu as préparé pour nous des moyens de salut. Tu as ouvert à l'homme une voie par laquelle il peut s'élever à toi pour t'adorer et pour te bénir. Oui, Christ, ton Fils, Dieu manifesté en chair, lui seul est le chemin, comme il est la vérité et la vie. Conduis-nous donc par ton pouvoir et par la puissance du Saint-Esprit au pied de cet adorable Sauveur, que nous ne cherchions de paix et de bonheur qu'en lui seul, car tout autre fondement est le néant même. Seigneur, veille sur nous, protège-nous, bénis-nous, bénis tous ceux qui nous sont chers, et que ton saint nom soit glorifié à toujours pour l'éternité. Amen. Et chers amis, il est vrai que Dieu vous aime, mais ne soyez pas déçus si je vous dis il aime surtout ceux qui ont un jour compris qu'ils s'étaient perdus et qui ont accepté sa main tendue pour se laisser racheter par le sang qu'il a versé à la croix pour vous, pour moi, afin que nous puissions être sauvés pour l'éternité. Si vous faites partie de ceux-là, il vous aime. Oh oui, il vous aime. Et je vous aime également de tout mon cœur. Soyez bénis. Et à bientôt à nouveau. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Au revoir, mes très chers amis.